Yes, Benny. Bonjour à tous et à toutes. Les 3 heures, on commence. Alors, voilà, donc je vous propose aujourd'hui, on est toujours avec Saint Joseph et toujours les écrits de notre Saint fondateur, Saint François de Sales, de voir aujourd'hui l'humilité. Alors, on va faire le tour de la question aujourd'hui, mais déjà aborder un petit peu. Et parce que, comme vous savez sûrement, à la visitation, l'humilité est une vertu très précieuse, très importante. C'est un des piliers sur laquelle on est fondé et surtout laquelle nous est demandé d'imiter. L'humilité est la douceur du cœur de Jésus. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, nous dit l'évangéliste Matthieu. Et saint Augustin dit « Ne dédaigne pas de devenir humble dans ton intérêt, puisque Dieu a daigné le devenir pour toi. Empare-toi de l'humilité du Christ, apprends à être humble, ne sois pas orgueilleux. Regarde l'arbre, il croît en profondeur pour prendre de la hauteur. Il fixe en bas ses racines pour porter sa cime au ciel. S'appuie-t-il sur autre chose que sur l'humilité ? Et toi, sans racine, tu vises les nues, c'est là courir à la ruine, non au progrès. » Et donc pour vous, notre saint fondateur dit dans une lettre à notre sainte mère, « Combien sur toutes les vertus, je vous recommande les deux plus chères vertus que notre Seigneur désire, tant que nous apprenions de lui, l'humilité et la douceur de cœur. Mais prenez garde que ce soit des vertus de cœur, vous ressouvenant de ce que je vous ai dit, que c'est un des grands artifices du diable de faire que plusieurs s'amusent à dire des paroles et faire des gestes extérieurs des vertus, lesquels, n'examinant pas les affections de leur cœur, pensent être humbles et doux, et ne le sont néanmoins point en effet. » Donc on va voir justement à travers le 20e entretien de saint François de Sales que vous avez dans vos mains, que on peut aussi croire qu'on est humble et qu'on ne l'est pas, parce que c'est que de l'extérieur, et notre saint fondateur qui lui pour lui la sainteté doit se faire d'abord de l'intérieur. Donc il donne une très belle image qu'on retrouve dans les entretiens. Il nous invite à écrire le saint nom de Jésus sur notre cœur pour que toutes nos actions, parce qu'on ne peut rien faire sans la volonté, et le cœur c'est le siège de la volonté, pour que toutes nos actions soient comme imprégnées, inspirées par le saint nom de Jésus. Et là, tout ce qu'on pourra faire sera marqué du saint nom de Jésus. Et donc il demande d'abord d'inscrire dans le cœur le nom pour que les actions soient imprégnées et soient faites pour le nom de Jésus. Et souvent nous, on se dit « ben, je vais faire les choses pour Jésus ». Mais si elles ne sont pas reliées à Jésus, une sainteté qui se fait d'abord de l'intérieur, conversion de l'intérieur pour que l'extérieur soit converti. Mais si avec notre saint fondateur, il ne faut pas s'y prendre par l'écorce, parce que du coup, ce sera donc superficiel. Et quand le vernis tombera, eh bien, tout sera refait. Donc, voilà. Et puis, le malin, il aime à changer les vertus. Et donc, des fois, il nous fait croire qu'on est humble. Et puis, dès qu'on nous écorche un petit peu avec une remarque, on démarre au quart de tour. Et là, on se rend compte que c'était du vernis, de fait. Donc, voilà. Alors, dans le 20e entretien que vous avez, saint François de Sales compare le saint patriarche à la palme et il remarque 3 propriétés particulières en la palme. Cela étant donc ainsi, pour m'introduire en mon sujet, dit-il, je remarque 3 propriétés particulières en la palme entre tous les autres arbres, qui sont en grand nombre, lesquelles propriétés conviennent mieux au saint patriarche, donc saint Joseph, dont nous célébrons la fête, qui est ainsi que nous fait dire la sainte église semblable à la palme. Il n'est pas seulement patriarche, mais le paranymphe de tous les patriarches. Il n'est pas simplement confesseur, mais plus que confesseur, car en cette qualité sont comprises les dignités des évêques, la générosité des martyrs et de tous les autres saints. C'est donc à juste raison qu'il est comparé à la palme qui est le roi des arbres et lequel a la propriété de la virginité, de l'humilité, donc c'est celle que je propose de voir avec vous aujourd'hui, et de la constance et vaillance. Trois vertus auxquelles le glorieux Saint Joseph a grandement excellé. Et si on osait faire des comparaisons, il y en aurait qui maintiendraient qu'il a surpassé tous les autres saints en ces trois vertus. Alors, je lis avec vous, puis on s'arrêtera un moment où on va aborder un terme qu'on retrouve beaucoup dans l'humilité, mais qui n'est pas du tout connu dans le monde. Alors, passons au second point, qui est la seconde propriété et vertu que je trouve au palmier, qui n'est autre que la sainte humilité. Car, encore que la palme soit le prince des arbres, elle est néanmoins la plus humble. Ce qu'elle témoigne en ce qu'elle cache, ses fleurs dedans des bourses qui sont faites en forme de gaines et étuis. Le saint fondateur, vous savez, il aime beaucoup prendre des images, c'est très fleuri. Et d'une image botanique, par exemple, il en tire quelque chose de succulent pour notre vie spirituelle, pour nous faire avancer dans l'amour du Seigneur. Ce qui nous représente très bien la différence des âmes qui tendent à la perfection d'avec les autres, la différence des justes d'avec ceux qui vivent selon le monde, car ceux-là, les mondains qui vivent selon les lois de la terre, dès qu'ils ont quelques bonnes pensées ou quelques cogitations qui leur semblent dignes d'être estimées, ou s'ils ont quelques vertus, ils ne sont jamais en repos jusqu'à temps qu'il l'ait manifesté et fait paraître à tous ceux qu'ils rencontrent. En quoi ils courent le même risque que les arbres les surprennent, ils périssent. Les mêmes risques que les arbres qui sont prompts au printemps de jeter leurs fleurs, comme sont les amandiers. Car si d'aventure la gelée les surprend, ils périssent et ne portent point de fruits. Ces hommes mondains qui sont si légers à faire épanouir leurs fleurs au printemps de cette vie mortelle par un esprit d'orgueil et d'ambition courent toujours fortune d'être pris par la gelée qui leur font perdre le fruit de leurs actions. Au contraire, les justes tiennent toutes leurs fleurs resserrées dans l'étui de la sainte humilité qui les font point paraître tant qu'ils peuvent jusqu'aux grosses chaleurs lorsque Dieu, ce divin soleil de justice, viendra réchauffer puissamment leur cœur en la vie éternelle, où ils porteront à jamais les doux fruits de la félicité et de l'immortalité. La palme ne fait point voir ses fleurs jusqu'à temps que l'ardeur véhémente du soleil vient à faire fondre ses gaines, étuis ou bourses dans lesquelles ils sont encloses. Après quoi, soudain, elles font voir leurs fruits, d'eux-mêmes en fait l'âme juste, car elle tient ses fleurs cachées. Tout ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire ses vertus sous le voile de la très sainte humilité jusqu'à la mort en laquelle notre Seigneur les fait éclore et les laisse voir au dehors, d'autant que les fruits ne doivent pas tarder à paraître. Alors l'image que prend notre saint fondateur, on peut aussi l'appliquer, donc il parle pour la vertu, mais par exemple quand vous avez fait une bonne action, quand vous avez fait quelque chose, rendu un service, eh bien, reprendre la même image qui est prise par notre saint fondateur de la gaine. Donc on aurait pensé à s'en courir quand on vit de façon selon les mondains. Il y a encore de la place, madame. On s'empresse hein, d'aller dire au prochain, voilà ce que j'ai fait. Des fois on se rattrape même parce qu'on se rend compte que c'est pas trop bien. On se s'enquiert de dire, je l'ai fait pour rendre service parce qu'on me l'a demandé ou je sais pas quoi. Mais avec Saint Joseph, l'image qui est prise, c'est quoi qu'on fasse. Il reste caché quoi, et du coup il reste dans ses gaines pour que le fait de les garder cachés dans le voile de l'humilité, c'est notre Seigneur quand il le jugera bon, donc des fois il dit même à la mort, qui leur fera porter ses fruits, quoi. Donc on peut très bien avoir, et des fois on entend, je fais beaucoup de bonnes œuvres, et puis, avec une certaine pointe d'amertume, j'ai jamais de retour, ou je sens pas que le Seigneur bénisse mon travail. Eh bien, c'est pas de l'humilité, en somme. On se dit, on n'est pas encore arrivé à la mort de soi. L'humilité n'est pas encore présente dans nos œuvres. On attend toujours un petit retour du prochain, un petit encouragement. Ben, l'humble, quand on voit Saint Joseph, il faisait son œuvre, donc sa vertu était cachée dans la gaine, et elle sera portée et portera ses fruits. Donc il y a un désintéressement, portera ses fruits quand Dieu l'aura décidé. Combien ce grand saint dont nous parlons fut fidèle en ceci? On ne le peut dire selon sa perfection, car en quelle abjection ne vécut-il pas tout le temps de sa vie? Pauvreté et abjection sous laquelle il tenait cachées ses grandes vertus et dignités. Alors je vais m'arrêter là et je vais reprendre un autre texte. Donc c'est abjection. À la visitation, c'est très très présent. Qu'est-ce que ça veut dire abjection? Nous, on nous dit souvent, quand on arrive, on dit, quand on fait quelque chose, et puis, mince, on la rate devant toute la communauté. Et puis là, on nous dit, aimez votre abjection, ma sœur. Alors, quand vous arrivez du monde, vous dites, ça veut dire quoi, aimer son abjection, quoi? Alors que ça fait partie de l'humilité. Mais dans le monde, abjection, je suis sûre que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors, notre saint fondateur, lui, il en parle. Dans l'introduction à la vie dévote, dans la troisième partie au chapitre 6, l'humilité nous fait aimer notre abjection. Allons plus loin, Philothée, je vous le dis. Aimez toujours et en toutes circonstances votre propre abjection. Mais me demanderez-vous, qu'est-ce que cela signifie aimer sa propre abjection? Abjection en latin est synonyme d'humilité. Lorsque Notre-Dame, dans son Magnificat, dit « Parce que notre Seigneur a vu l'humilité de sa servante, toutes les générations me diront bienheureuse. » Elle veut dire que notre Seigneur a jeté un regard de bienveillance sur son abjection, son abaissement sur la bassesse de sa condition, pour la combler de faveur et de grâce. Il y a toutefois une différence entre abjection et humilité. Abjection désigne notre état de bassesse, de pauvreté, de petitesse, lequel est un fait, même si nous n'y nous pensons pas, mais l'humilité désigne la connaissance que nous en avons et l'aveu que nous en faisons. Nous l'admettons et le reconnaissons. Or, le degré suprême de l'humilité ne consiste pas seulement à reconnaître volontairement notre abjection, mais à l'aimer et à nous y plaire, non point par lâcheté ou manque de courage, mais pour que Dieu en soit d'autant plus exalté et le prochain d'autant plus estimé. Voilà à quoi je vous exhorte. Puis après je vais continuer, mais... Donc on connaît tous en soi quelque chose qui nous est abject, quelque chose qu'on n'aime pas. Notre pauvre, et c'est sûr, c'est notre pauvreté. On dit souvent, on aura toujours ce boulet avec lequel on traîne, quoi. Donc ça peut être une incapacité à prendre la parole en public, ça peut être quelque chose, ça peut être par exemple je m'énerve facilement, on monte vite. On a tous quelque chose, donc c'est déjà une démarche à faire, de demander la grâce au Sacré-Cœur. De savoir, voilà, quelle est mon abjection, qu'est-ce qui me fait, qui m'empêche à grandir dans l'humilité. Je me courrousse souvent sur quelque chose que j'aimerais bien me débarrasser, quoi. Notre saint fondateur, vous voyez ce qu'il vous dit? Il vous dit pas d'aller le jeter à la poubelle, il vous dit d'apprendre à l'aimer. Et là, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, on a beau, même chez les religieuses, On a beau, comme souvent les sœurs nous disent, bah moi je suis comme ça. Ah bon, bah ma sœur, il va falloir apprendre à changer. Donc on travaille sur, c'est ça la vie intérieure, on travaille par l'union à Dieu, on travaille sur ce qui est un empêchement à la sainteté, pour ressembler davantage à Jésus. Mais on voit bien que malgré nos efforts, Jésus nous laisse quelque chose pour pâtir. Un trait de caractère, une mauvaise habitude, une saillie de tempérament. Et notre saint fondateur dit, gardez-le et comme, comme une pièce précieuse, c'est voilà, apprenez-le à l'aimer. Donc quand on tombe à cause de ça, pardon, on doit aimer sa colère, non. Les conséquences de la colère, je m'exprime et puis voilà, j'ai du mal à supporter quelque chose, là je pars dans la colère. Il va y avoir bien sûr quelque chose qui va découler de ça, de la honte quand on va se rendre compte que quand la colère va être descendue, oh, je me suis encore mise en colère. Eh bien, du résultat, c'est de ça qu'il faut apprendre à aimer. Donc l'humiliation, il faut aller jusqu'à l'aimer et pas la rejeter. Et c'est en ça qu'on est humble. Alors je vous lis, notre saint fondateur continue avec des exemples très, très colorés, comme il aime, comme il sait faire. Parmi les maux dont souffrent les hommes, il en est d'honorables. Il en est d'autres qui nous abaissent aux yeux du prochain. Beaucoup se font une raison des premiers, mais bien peu acceptent les seconds. Prenez un pieux ermite, habillé de guenilles et gelé de froid. Tout le monde vénère ses guenilles et compatit à ses souffrances. Prenez maintenant un pauvre artisan, un pauvre gentilhomme, une pauvre dame qui serait dans le même état, qui ne s'en moquerait, qui ne les mépriserait. Dans un cas, la pauvreté est honorée, dans l'autre, elle est méprisée. Un religieux reçoit-il modestement une réprimande de son supérieur ou un enfant de son père, on admire, voilà qu'il est une sage soumission. Mais si un chevalier ou une dame de condition subissait une chose semblable et qui, pour l'amour de Dieu, il réagissait de la même manière, ce serait considéré comme lâcheté ou servilité. Voilà un mal abject. Une personne a une tumeur au bras, une autre au visage. La première n'a que le mal physique, mais l'autre, outre le mal, provoque le dégoût et subit l'abjection. Or je dis maintenant qu'il ne faut pas seulement aimer le mal, c'est cela le propre de la vertu de patience, mais il faut aimer l'abjection, c'est le propre de l'humilité. De même qu'il y a des maux honorables et des maux abjects, il y a des vertus honorables et des vertus méprisées. La patience, la douceur, la simplicité, l'humilité, ce sont là des vertus que les gens du monde dédaignent. En revanche, ils estiment fort l'habile prudence, le courage, la générosité. Il y a même des actions d'une même vertu dont les unes sont méprisées et les autres admirées. Faire l'aumône ou pardonner, les offenses, deux actions qui procèdent de la charité, la première est admirée, la seconde méprisée. Un jeune homme ou une jeune dame qui se tiennent à l'écart des jeux, des danses ou de la débauche d'une compagnie sont critiqués et ridiculisés. Leur réserve est taxée de bigoterie ou de simagrée. Aimer cela, c'est aimer son abjection. Et voici une d'un autre genre. Nous allons visiter les malades. On me désigne le plus misérable. Ce n'est guère honorable aux yeux du monde. Voilà donc, par conséquent, qui me réjouit. Si l'on m'avait désigné des personnes de qualité, il n'y aurait pas tant de mérite. Par conséquent, cela me serait une occasion d'humiliation pour l'esprit. Dans un cas comme dans l'autre, à moins de saisir l'abjection et de l'aimer, si je tombe dans la rue, outre le mal, j'en suis humilié. Eh bien, il faut aimer cette humiliation. Il y a même des fautes qui ne comprennent pas d'autre mal que l'humiliation que l'on y trouve. L'humilité ne demande pas qu'on les commette à dessein, mais elle demande que l'on n'en s'en inquiète en rien, dès lors qu'on les a commises. Les étourderies, les maladresses, les impairs. Si l'on y pense avant, il faut bien sûr les éviter. Mais lorsqu'on les a faites, acceptons-en l'humiliation et acceptons-la de bon cœur par esprit d'humilité. Je dis davantage, si, dans un coup de colère, je me suis laissé aller à des paroles qui offensent Dieu et le prochain, j'en serais certes très peiné. Je m'en repentirai vivement et j'essaierai de réparer du mieux possible, mais j'acquiescerai à l'humiliation que cela me vaudra. Si l'on pouvait les séparer, je regretterai ardemment le péché et garderai humblement l'abjection. Malheureusement, on ne peut pas les séparer souvent hein, quand on est quand on a eu un mouvement de colère, quoi. Mais l'humilité va jusque-là. On doit aimer les conséquences de nos actes. Toutefois, si nous aimons l'abjection en tant qu'elle est une conséquence du mal, encore faut-il remédier au mal qui l'a causé par des moyens appropriés et légitimes, surtout lorsque les conséquences en sont graves. Si j'ai le visage défiguré par une maladie, je chercherai à en guérir, mais ce ne sera pas pour échapper à l'abjection. Si j'ai commis quelque faute qui ne fait de tort à personne, encore que ce soit un défaut, et à condition que ce ne soit pas une habitude, je ne me chercherai pas d'excuses. Car si je m'en excusais, ce ne pourrait être que pour échapper à l'abjection qui m'en revient. Or, cela, l'humilité ne peut le permettre. En revanche, si par mégarde, j'ai offensé ou scandalisé quelqu'un, je réparerai et m'excuserai, surtout si le mal que j'ai fait est profond et que la charité demande absolument que j'y remédie. Au demeurant, il peut arriver aussi que nous devions éviter une situation humiliante pour le bien du prochain qui ne comprendrait pas une attitude parce que notre réputation lui est nécessaire et qu'il en serait scandalisé. Mais dans ce cas, ôtons l'humiliation des yeux du prochain pour empêcher son scandale, prenons-la pour nous-mêmes et cachons-nous-la dans notre cœur. Voilà les fameuses gaines de la palme de Saint-Joseph. Je finis. Voulez-vous savoir, Philothée, quelles sont les meilleures humiliations, les plus profitables à notre âme et les plus agréables à Dieu? Ce sont celles que la vie ou les circonstances nous présentent, parce que nous ne les avons pas choisies et que nous les recevons telles que Dieu nous les envoie. Or, son choix est toujours meilleur que le nôtre. Parce que pourquoi? Parce que dans son choix, il n'y a que Dieu, et dans le nôtre, il y a de nous. Donc même une belle mortification, je me prive de quelque chose qui me coûte. Eh bien, le fait d'avoir fait le choix de s'en priver, il y a déjà du nôtre. Donc notre saint fondateur, il était beaucoup plus dans accueillir le moment présent. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des mortifications. Mais comme on ne les a pas choisies, on ne s'est pas préparé. Eh bien, ça nous coûte obligatoirement plus. Là où il y a moins de nous, il y a plus de Dieu. C'est pour ça que la mortification et la visitation, c'est pas de choisir, c'est d'accueillir le quotidien tel qu'il nous est présenté. Mais s'il fallait choisir, les plus grandes sont les meilleures, et les plus grandes, ce sont celles qui sont les plus contraires à nos inclinations naturelles, dès lors qu'elles ne vont pas à l'encontre de notre vocation. Disons-le une fois pour toutes, c'est le fait que ce soit nous qui les choisissions qui gâte et amoindrit presque toutes nos vertus. Ah, qui nous fera la grâce de pouvoir dire avec ce grand roi « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison du Seigneur plutôt que d'habiter la tente des impies. » Nul ne le peut, cher Philothée, que celui qui, pour nous élever jusqu'à lui, vécut et mourut de telle manière qu'il fut l'opprobre des hommes et l'abjection des peuples. Je vous ai dit beaucoup de choses, si vous contentez de les considérer, elles vous paraîtront bien dures, mais croyez-moi, si vous les pratiquez, elles vous seront plus douces que le miel. C'est sûr que ça paraît difficile hein, d'aimer son... quand on est humilié, on nous a dit quelque chose, tac, on sent que... surtout en public, hein, bien sûr, avec un groupe et tout ça. Et surtout qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas du tout dans la démarche de paraître le plus petit, de prendre la dernière place, Aujourd'hui, voilà, il faut réussir, il faut quitte à donner un coup de coude au voisin pour prendre sa place dans la vie professionnelle. Mais même dans la famille, il faut, quand on est maman et qu'on a des enfants, et que nos enfants, par exemple, ne sont pas bardés de diplômes, voilà, c'est pas vécu. C'est toujours humiliant. On préfère dire que ses enfants ont réussi, que tout le monde, tous les enfants font, sont heureux, voilà, que tout marche, quoi. Et selon ça, c'est selon le monde. Et alors, on est content, bien sûr, hein, c'est normal que la famille, tout le monde aille bien. Mais si on se place dans la démarche de notre saint fondateur, qui va bien sûr, le Seigneur permettre pour qu'on ait un peu d'humilité, des abjections face à nos situations familiales, hein, de voir des choses qui à nos yeux, ne sont pas réussies, hein, aux yeux de la. Aux yeux de la société. Hein. Et parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie, quoi. C'est professionnellement, c'est avoir un bon salaire à la fin du mois. Non, je crois que la vraie réussite de nos vies, c'est l'union qu'on a avec Dieu. Hein. Alors vous me direz, bah oui, mais tous mes enfants n'ont pas Dieu dans leur vie. Ah bah ça c'est sûr. Hein, pourtant on les a bien élevés, etc. On a essayé de donner le meilleur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Hein, il faut continuer, nous de notre côté, déjà à y croire, hein, et puis à l'aimer et à ne pas nous occuper, surtout nous préoccuper du salut de nos enfants. Hein. Dieu est bien le seul et l'unique à être à même de s'en occuper. Hein. Dès qu'on tombe dans la préoccupation, on prend la place de Dieu et on empêche le Seigneur de faire quelque chose pour nos enfants. Ou notre mari, ou autre. Même pour une communauté, hein, une supérieure qui se préoccuperait de quelque chose dans sa communauté, elle prend la place de Dieu. Donc, très sincèrement, je ne m'en occupe pas, je m'occupe de Jésus, quoi, de lui donner de l'amour, parce que je suis rentrée pour ça. Alors, bien sûr qu'il va me réserver des humiliations, des abjections, et il va falloir que j'apprenne à les aimer. Donc, les humiliations... ces petites saillies, hein, que notre fondateur vient, donc celles qui sont abjectes et celles qui le sont moins. Et c'est sûr que souvent on voit bien dans nos comportements, et même autour de vous, des choses qui sont humiliantes d'elles-mêmes, hein, par elles-mêmes. Et puis d'autres choses qui sont cachées et qui seront par contre pour la personne qui seront comme un aiguillon dans la chair. Ça ne se voit pas, mais par contre ça la retient dans son don, dans son élan, dans sa générosité, dans sa vie, ça la retient. Eh bien, tant qu'on tapera dedans, tant qu'on refusera à travers ça la main tendue du Sacré-Cœur, eh bien, on ne peut pas rentrer dans cet amour de l'abjection. Donc avant, il faut commencer à se dire, allez, je prends la décision, avec la grâce de Dieu, avec le cœur de Jésus, pour lui être semblable, doux et humble, de prendre la décision d'aimer ce que je n'aime pas et qui est pour moi un obstacle peut-être à grandir dans la vie spirituelle, dans la vie d'union. Et quand on a dit oui, vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'ouvre et tout devient plus simple. Hein. Et surtout, Dieu va pouvoir rentrer son esprit et puis là, vous allez pouvoir comprendre à la lumière de l'esprit toutes les petites subtilités qu'il y a à comprendre autour de cette abjection, de ce trait que vous de caractère ou de tempérament ou même de situation à vivre. Il y a des gens qui vivent des situations continuellement humiliantes. Hein. Les exemples, je vous en manquais pas. Enfin, autour de nous, on voit bien, hein, que la situation devenant de plus en plus difficile, douloureuse, on voit bien que les gens souffrent beaucoup et voilà, plein de situations nous sont données où le Seigneur doit nous montrer qu'est-ce que tu me demandes d'aimer et que je refuse d'aimer parce que non, je peux pas supporter ça, je peux pas tolérer ça, c'est pas normal. Ah, Dieu providence, priez pour nous. Tout est permis, même ce qu'on ne peut pas imaginer, si c'est permis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me demande là-dedans? Mais oui, mais c'est pas normal. Peut-être. Mais d'abord disons oui et puis on y verra plus clair. Que non et hop, je refuse, là on bloque le plan de Dieu sur nous. Hein? Il ne peut pas nous rejoindre dans son humilité, c'est pas possible. Il ne peut pas nous changer. Donc il va permettre des situations qui sont à nos yeux intolérables, c'est vrai, et pourtant il nous demande là-dedans bah, d'y entrer, de dire oui. Et puis quand on a dit oui, on va voir les subtilités, et puis on va ah, c'était... Et puis au final, vous verrez, vous direz, ah, c'était si simple. Et là, il a pu nous changer, nous partager son humilité. Et qu'est-ce que fait l'humilité? Ben, ça change le monde, quoi. C'est surtout que, c'est ça, si vous êtes garde d'honneur, c'est pour partager son cœur. Hein. C'est pour voir son cœur doux et battre dans votre poitrine. Et à ce moment-là, le monde changera. Moi, je ne désespère pas, même si je le vois toutes ces... Actuellement, enfin, en tout temps, mais là d'autant plus, on accueille beaucoup à l'intérieur des retraitantes. Et quand je vois voilà, la souffrance des unes et des autres, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est changer ce monde, donc déposer dans le cœur de Jésus, mais nous-mêmes changer pour qu'elles reçoivent les grâces qu'elles sont venues chercher auprès du cœur de Jésus. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde, c'est pas que l'affaire de celle qui porte un voile sur la tête. Bon, on est mandaté hein, par Jésus, hein, parce que d'avoir aujourd'hui Dieu dans sa vie, je peux vous vraiment, enfin, vous devez le mesurer tous les jours, mais oh, c'est la grâce des grâces, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose à pas, enfin, pour lequel il faut bénir, hein, parce que c'est malheureusement les gens qui n'ont pas Dieu, enfin, oh, ils vivent un enfer. C'est ce que je me disais ce matin, en en apercevant une, là, je me disais, oh, elle vit un enfer en elle parce que elle a fermé la porte à Dieu, quoi. Hein. Voilà, j'avance, on a encore un petit peu de temps pour continuer sur le... Là, je reprends la lecture du 20e entretien de Saint-François de Sales. Donc, on a laissé pauvreté et abjection sous laquelle il tenait caché ses grandes vertus et dignités. Mais quelle dignité, mon Dieu, être gouverneur de notre Seigneur, et non seulement ça, mais être son père putatif, mais être époux de sa très-sainte mère. Oh, vraiment, je ne doute nullement que les anges... ravis d'admiration, ne vinssent troupe à troupe le considérer et admirer son humilité. Lorsqu'il tenait ce cher enfant dans sa pauvre boutique, où il travaillait de son métier pour nourrir le fils et la mère qui étaient avec lui. Il n'y a point de doute que Saint Joseph, mes chères sœurs, donc là il parle à l'extérieur de la visitation, ne fut plus vaillant que David. Il n'eut plus de sagesse que Salomon et que les autres, quels qu'ils fussent. Néanmoins, le voilà réduit à l'exercice de la charpenterie. Qui eût pu juger cela, s'il n'eût été éclairé de la lumière céleste, tant il tenait resserré tous les dons dont Dieu l'avait gratifié? Mais quelle sagesse n'avait-il pas, puisque Dieu lui donna la charge de son fils très cher et qu'il fut choisi pour être son gouverneur? Si les princes de la terre ont tant de soin, comme étant une chose très importante, de donner un gouverneur des plus capables à leurs enfants, et pensons-nous que Dieu ne fit pas que le gouverneur de son fils fût le plus accompli homme du monde en toutes sortes de perfections, selon la dignité et l'excellence de la chose gouvernée, qui était son fils, très glorieux prince universel du ciel et de la terre? C'est sûr qu'on sait bien que notre Dieu, du haut du ciel, il n'a pas choisi n'importe qui pour le donner à son fils. Et on peut appliquer le raisonnement que fait notre saint fondateur à Marie. Comme se pourrait-il faire que l'ayant pu, il ne l'ait voulu et ne l'ait fait? Il n'y a donc nul doute que Saint Joseph n'ait été doué de toutes les grâces et de tous les dons que méritait la charge que le Père éternel lui voulait donner. Du mystère de l'incarnation que notre Seigneur et de la conduite de sa famille qui n'était composée que de trois, qui nous représente la très sainte et adorable Trinité, non qu'il y ait de la comparaison, sinon en ce qui regarde notre Seigneur, qui est une personne de la très sainte et glorieuse Trinité, car quant aux autres, ce sont des créatures. Mais pourtant, nous pouvons dire que c'est la Trinité en terre, comme la très sainte Trinité est au ciel, Marie, Jésus et Joseph. Joseph et Jésus et Marie, Trinité merveilleusement recommandable et digne d'être honorée. Vous entendez donc combien la dignité de Saint Joseph était relevée et combien il était rempli de toutes sortes de vertus. Néanmoins, vous vous souviendrez d'ailleurs combien il était rabaissé et humilié, plus qu'il ne se peut dire ni imaginer. Son exemple suffit pour le bien entendre. Il chanta en son pays et en sa ville de Bethléem, et nul n'est rejeté de tous les logis que lui, au moins que l'on sache, si qu'il fut contraint de se retirer et conduire sa chaste épouse dans une étable parmi les bœufs et les ânes. En quelle extrémité était réduite son abjection et son humilité? Son humilité fut la cause qu'il voulut quitter Notre-Dame quand il l'a vue enceinte. Car Saint Bernard dit qu'il fit ce discours en soi-même. Je sais qu'elle est vierge, car nous avons fait vœu par ensemble de garder notre virginité et pureté. À quoi elle ne voudrait nullement manquer. D'ailleurs, je vois qu'elle est enceinte et qu'elle est mère. Comment se peut-il faire que la virginité se trouve en la maternité et que la virginité n'empêche pas la maternité? Ô Dieu, dit-il en soi-même, ne serait-ce point cette glorieuse Vierge dont les prophètes assurent qu'elle concevra et sera mère du Messie? Ô, si cela est, à Dieu ne plaise que je demeure avec elle. Moi qui suis si indigne, mieux vaut que je l'abandonne secrètement à cause de mon indignité, et que je n'habite davantage en sa compagnie. Sentiment d'une humilité si admirable, laquelle fit écrier Saint Pierre en la nacelle, où il était avec notre Seigneur lorsqu'il vit sa toute-puissance manifestée en la grande prise des poissons, au seul commandement qu'il leur avait fait de jeter leurs filets dans la mer. Ô Seigneur, dit-il, tout transporté d'un semblable sentiment d'humilité que Saint Joseph, retirez-vous de moi, car je ne suis pas digne d'être avec vous. Je sais bien que si je me jette dans la mer, je périrai. Mais vous, vous êtes tout-puissant, marcherez sans danger à pied sec sur les ondes. C'est pourquoi je vous supplie, vous retirez de moi, et non pas que je m'en retire. Donc voilà une des premières parties, en fait, que notre saint fondateur écrit sur l'humilité de Saint Joseph. Voilà, quand on est humble, tous les honneurs qu'on nous donne, eh bien, en somme, on ne les sent pas. Saint Joseph ne s'est pas rendu compte. La beauté, l'humilité de Marie, il la connaissait, mais la sienne, elle lui était voilée. Donc de s'occuper du Fils de Dieu, ça lui était une chose honorable, c'est certain, mais ça ne l'empêchait pas d'être fidèle à sa vocation. Hein. Donc l'humilité nous ajuste. Et c'est là que peut-être on peut voir poindre la fausse humilité. Quand on est humble, tout nous paraît simple. On est ajusté à ce que Dieu nous demande. Quand on singe l'humilité, on fait beaucoup d'effets de manche, si je puis me permettre l'expression. On se perd dans des explications à ne plus en finir. Hein. Parce qu'on est comme gêné, on n'est pas ajusté à ce qu'il nous demande. Donc on peut avoir une place, le petit comme André, mais je crois qu'il l'avait dit dans un article, moi il m'en avait, le cardinal Sarah qui me confiait un jour au cours d'une interview que un grand un prince de l'Église, pour si on reprend le terme qu'utilisait notre saint fondateur à son époque, voilà, un grand troisième il était hein, du Vatican, expliquait que quand il était justement honoré, hein, on leur donne des situations où ils sont vraiment mis, à la place d'honneur. Comment rester humble là-dedans, hein? Eh bien, pas se croire quelqu'un avec le droit de faire des remarques qui peuvent blesser. Eh bien, parce que l'humble, quand il parle, il ne blesse pas. Eh bien, voilà ce qu'il faisait. Il se maintenait dans cette humilité en disant intérieurement des sentences d'humilité. Ce qui fait que tous les honneurs qu'on lui attribuait, il ne les sentait pas. Donc Saint Joseph étant juste, hein, donc saint, il n'avait pas besoin de les faire. Son attitude d'humble le plaçait dans cette situation où les honneurs ne l'atteignent pas. Hein. Nous, quand on nous fait une remarque, on nous fait un compliment, il faut bien reconnaître, ça nous fait quelque chose. Ça chatouille l'orgueil, hein, ça nous fait gonfler, quoi, comme si on peut reprendre l'image. Du pan, notre saint fondateur en parle, du pan qui gonfle et qui dresse sa queue et puis qui fait sa queue comme un éventail avec qui sont magnifiques, mais et on aurait tendance à se l'attribuer à soi alors que c'est pas du tout de nous, quoi. Voilà, donc une petite subtilité, et ça peut être un moyen aussi qu'on peut utiliser pour savoir où on en est dans l'humilité. Quand on nous fait une petite parole, une petite remarque avec gentillesse pour nous remercier, etc., puis on sent bien, ah bah oui, j'ai été importante, heureusement que j'ai été là. Et alors tout ça, on ne le dit pas, hein, on ne le dit pas, ben non, bien sûr, ça ne se dit pas. Par contre, c'est là. Hein. Et tout ça, c'est des petits, ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais c'est des petits obstacles, c'est des petits grains, quoi. Hein, des petits grains de sable dans la petite machine à aimer que nous sommes. Hein. C'est des petites parcelles qui prennent la place par rapport à l'humilité l'humilité de Jésus. Parce que c'est toujours pareil, c'est pas la nôtre, hein, c'est celle de Jésus qui veut nous partager. Hein. Alors. Mais si Saint Joseph était si glorieux de tenir resserrées ses vertus sous l'abri de la poche précieuse de l'humilité, car autrement, il leur arrivera tout ainsi qu'aux folles vierges, lesquelles, faute d'humilité, furent chassées des noces de l'époux, et pourtant contraintes d'aller aux noces du monde, où l'on n'observe pas le conseil de l'époux céleste, qui dit qu'il faut être humble pour entrer aux noces. Je veux dire qu'il faut pratiquer l'humilité, car, dit-il, allant aux noces ou étant invité aux noces, prend la dernière place. Et quoi, nous voyons combien l'humilité est nécessaire pour la conservation de la virginité, puisque sans cette vertu, on doit être indubitablement rejeté du céleste banquet et du festin nuptial que Dieu prépare aux vierges en la céleste demeure. Et oui, c'est une condition pour entrer au festin céleste. Ça, on ne le dit pas. L'on ne tient pas les choses précieuses, surtout les onguents odoriférants, à l'air, car outre que ces odeurs viendraient à s'en aller, les mouches les gâteraient et feraient perdre leur prix et leur valeur. De même, ces âmes justes, craignant de perdre le prix et la valeur de leurs bonnes œuvres, le resserrent ordinairement dans une boîte. Mais non une boîte commune, non plus que les onguents précieux, mais dans une boîte d'albâtre, telle que celle que Sainte Madeleine répandit sur le chef sacré de notre Seigneur lorsqu'il rétablit sa virginité. Non essentielle, mais réparée, laquelle est quelquefois plus excellente, étant rétablie par la pénitence, que non pas celle qui n'a point reçu de tare et qui est accompagnée de moins d'humilité. Boîte d'albâtre où nous devons, à l'imitation de Notre-Dame et de Saint-Joseph, resserrer nos vertus et tout ce qui peut nous faire estimer des hommes, nous contentant de plaire à Dieu en demeurant sous le voile sacré de l'abjection de nous-mêmes, attendant ainsi que nous avons dit que Dieu, venant pour nous retirer au lieu de sûreté, qui est la gloire, fasse lui-même paraître nos vertus pour son honneur et gloire. Donc, quand on souffre de quelque chose, on va dire ce voile de l'abjection, qui nous garde dans l'humilité, ne nous demandons pas, ne faisons pas des neuvaines pour demander qu'il nous l'ôte, au contraire, profitons-en pour nous cacher dedans. Et restons bien unis à Jésus en lui redisant qu'on l'aime, pour qu'il s'occupe des nôtres, hein, pour sa gloire. Mais j'irais quelque part, ça nous sauve de l'orgueil. C'est peut-être dur à entendre ça aujourd'hui, hein, parce qu'on a tous quelque chose dont on voudrait se débarrasser, pour lesquels on multiplie sûrement les prières. Non, c'est un voile précieux sous lequel il faut garder, il nous faut garder toutes nos bonnes œuvres, on va dire. Hein. pour qu'il soit le seul à le savoir. Mais quelle plus parfaite humilité peut-on imaginer que celle de Saint Joseph ? Ne laisse à part celle de Notre-Dame, car nous avons déjà dit que Saint Joseph recevait un grand accroissement en toutes les vertus par forme de réverbération que celle de la Sainte Vierge faisait en lui. Alors c'est là-dessus que je vais terminer. C'est très très beau, ça j'aime beaucoup. Je vous suivais parce que c'est notre saint fondateur, voilà, il y a des images. Hein. Notre-Dame recevait du glorieux Saint Joseph beaucoup de soulagement et de service. Et lui participait à tous les biens spirituels de sa chère épouse. N'oublions pas, c'est le juste. Hein. Lesquels, même s'il n'est pas immaculé, l'Église, en tout cas on ne fête pas l'Immaculée Conception de Saint Joseph. Lesquels faisaient qu'il allait croissant merveilleusement en perfection. Et ce, par la communication continuelle qu'il avait avec elle. Qui possédait toutes les vertus en un si haut degré que nulle créature n'y saurait parvenir. Néanmoins, Saint Joseph était celui qui en approchait davantage. Tout ainsi comme l'on voit un miroir opposé aux rayons du soleil recevrait les rayons très parfaitement. Et un autre miroir étant mis vis-à-vis de celui qui les reçoit, les représente pourtant si naïvement... Bien que ce dernier miroir ne prenne ou ne reçoive les rayons du soleil que par réverbération, les représente pourtant si naïvement que l'on ne pourrait presque pas juger lequel c'est qui les reçoit immédiatement du soleil, ou celui qui les reçoit par réverbération, ou celui qui les reçoit le premier. De même, Notre-Dame, laquelle, comme un très pur miroir, opposé aux rayons du soleil de justice, rayon qui apportait en son âme tant de vertus en la perfection, et vertu qui faisait une réverbération si parfaite en Saint Joseph, qu'il semblait presque qu'il fût aussi parfait ou qu'il eût les vertus en un si haut degré que la glorieuse Vierge. C'est beau, hein? Et du coup, on a du mal à les séparer quand on les prie. Je ne sais pas si... comment séparer Saint Joseph de la dévotion à Saint Joseph, de la dévotion à la Vierge? Parce qu'en fait, ils se reçoivent l'un l'autre. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Petite part, c'est moins parti. Juste un petit, parce qu'on approche de l'heure, et puis on est à la veille hein, de la fête du Saint-Sacrement, et puis surtout à la fête du Sacré-Cœur dans quelques jours. Donc on connaît, vous êtes des habitués, mais peut-être pas tous. Et juste un petit mot pour comment bien fêter en tant que garde d'honneur. La fête du Sacré-Cœur, et puis pas confondre, c'est peut-être un peu forcer le trait, entre la fête du Saint-Sacrement, qui est une fête d'action de grâce, hein, pour le don que fait Dieu en donnant cette présence réelle, hein, elle est réelle, il est vraiment là, hein, on a tendance à, malheureusement, même chez les chrétiens, on perd hein, cette notion de la présence réelle. Jésus est présent dans toute sa divinité, dans son âme, son corps et son sang, et dans l'hostie et dans le sang consacré. Donc on ne peut pas s'approcher dans n'importe quel état intérieur, parce que quand il va venir, quand on va le recevoir, on va lui partager notre intérieur. Donc si vous le faites rentrer dans un cœur tout noir, tout sali, hein, tout plein d'araignées, on va dire comme dans une pièce qui est mal nettoyée, il va se noircir. Hein. Donc, mais ceci dit, il dira à Sainte Marguerite, Marie, que il montrait une personne, celle-ci, en communion, a réveillé toutes les douleurs de ma passion. Donc c'est important de prendre conscience que aujourd'hui, on va... Même si on a été pris un temps, on va beaucoup communier, mais il n'y a pas autant de confessions, ce n'est pas proportionnel. Donc n'oublions pas d'aller nous confesser. Donc c'est une fête d'action de grâce, on rend grâce. Et autant la fête du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur, qui sera vendredi. La messe est à 9h30, célébrée par l'abbé Harel, l'exposition du Saint-Sacrement toute la semaine. Et bien cette fête, elle a été demandée par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, et si elle a eu les apparitions du Sacré-Cœur, c'était pour qu'elle demande à l'Église une fête qui célèbre de façon universelle son cœur. Et c'est une fête qui est marquée par la réparation. Donc notre Seigneur demandera pour réparer de prier une amende honorable. Donc le jour de la fête du Sacré-Cœur, il est demandé de prier une amende honorable. Alors pour certains, ça peut être désuet, c'est une prière ancienne. Mais par pitié, on s'inscrit dans une tradition qui est vivante. Il ne s'agit pas d'aller chercher des bouquins poussiéreux. Non, ce n'est pas de cet ordre-là. Peut-être que ce sera dans un vieux livre que vous trouverez l'amende honorable. Mais la tradition, ce n'est pas ça. C'est bien plus grand que ça. C'est toute la vie de l'Église, quoi. Et quand on voit que l'amende honorable a traversé toute cette vie de l'Église, on s'inscrit dans tous ces priants en la disant, quoi. Et donc, on fait réparation. Et mon Dieu, quand on voit aujourd'hui le nombre de sacrilèges qui sont commis envers la présence eucharistique, et là j'y viens, la demande que fait notre Seigneur, c'est pour qu'on répare les offenses qui lui sont faites dans les expositions de son sacrement d'amour sur les autels, tous les sacrilèges qu'il reçoit dans son sacrement d'amour sur les autels. Donc c'est toujours pareil, hein, le Saint-Esprit, il passe les années sans aucune difficulté, ce qu'il a demandé à Sainte Marguerite Marie, aujourd'hui c'est d'actualité. Et ça doit résonner très fort dans nos cœurs de garde d'honneur. Le jour de la fête du Sacré-Cœur, c'est pour réparer toutes les offenses. Donc on renouvelle notre consécration, etc., mais on s'engage à réparer, amour par amour, quoi. Rendre amour par amour, pour amour. Donc c'est ça que je voulais rappeler. Donc c'est aussi donc la fête, il est demandé aussi dans les statuts de Commier d'assister à la messe si on le peut, là aussi, si on travaille. Mais chez soi, on peut très bien, je vais oser dire, les bras en croix. Voilà, c'est des pratiques que nous religieuses, on a gardées. Hein. Il y en a qui ne les ont pas gardées, mais bon, ça regarde chacun. Mais même un laïc, il faut qu'on reprenne. On prie avec un cœur, d'accord, mais on prie aussi avec son corps. Hein. Jusqu'à maintenant, vous ne dites pas à votre cœur, prie, puis moi je vais faire autre chose. Donc c'est avec votre corps que vous priez, quoi. Ce sont des pratiques de pénitence. Et pour ceux et celles qui peuvent, quand on peut s'agenouiller, on prend les conditions, bien sûr, on sait si on est malade ou pas, mais quand on peut le faire, ça se fait plus. Ben, peut-être bien, mais si on attend que ça se fasse, peut-être que votre voisin à l'église attend que vous vous mettiez à genoux pour s'y mettre. Hein? Ça, moi, j'ai déjà rencontré ça. Donc voilà, faut. Alors c'est sûr, je sais très bien, il y en a déjà qui m'ont partagé, que des fois on se fait reprendre hein, à la sortie, même par le curé, je sais bien. Mais c'est pas grave, hein. Je crois que notre rôle, on va pas. C'est à nous d'évangéliser par notre façon d'être, hein. La façon dont on communie à Jésus. Si Jésus pour nous est le roi des rois, eh bien comment on le reçoit, voilà. Comment on va faire réparation? Si c'est la personne la plus importante pour nous, comment on va le recevoir et quel intérêt on lui porte, quoi. Si ça ne doit pas se voir parce qu'on a peur du regard de l'autre ou de la remarque, bah, vous ne croyez pas que lui aussi, il va un jour ou l'autre vous montrer qu'il ne veut pas que ça se voit, quoi. Hein? Il n'est pas dit un jour il rougira de nous. Hein? Donc il nous faut aujourd'hui dépasser, hein, des fois, justement le regard de l'autre, hein, le jugement de l'autre, en sachant, je vous dis, je pense que derrière il y a une histoire de malin qui veut nous faire croire qu'on va être mal jugé. Et des fois, au contraire, ça aide la personne qui est à côté de nous. Hein. Voilà. Je reconfie à votre prière tous les gardes d'honneur qui sont malades dans leur corps ou dans leur cœur. Je vous reconfie une jeune fille qui s'appelle Louise, qui est garde d'honneur. Et vraiment, je vous la confie, si vous pouvez bien la déposer en la fête du Sacré-Cœur dans son cœur, pour que, voilà, quelle est la volonté de seconder la grâce, hein, que le cœur de Jésus lui sert là. Et puis, est-ce que c'est ça la guerre d'honneur aussi, hein, c'est de s'entreporter les uns les autres. Vous la connaissez pas, mais en tout cas, les gardes d'honneur, elle s'était engagée, elle était gamine, là, elle est revenue me voir. Donc 19 ans, c'est pas 19 ans dans ce monde-là, c'est pas facile. Et puis un garde d'honneur qui a demandé qu'on prie pour lui, parce qu'il est professeur et il sera inspecté la semaine prochaine. Donc j'ai dit que je confierais. Et puis voilà. Donc vous pouvez, beaucoup se sont interrogés pour l'heure sainte. Donc le mois prochain, la chapelle sera ouverte, parce que le couvre-feu n'existera plus. Et puis les dates pour la prochaine formation, n'oubliez pas de distribuer autour de vous pendant vos vacances. J'ai les feuillets pour faire connaître, les flyers pour faire connaître la guerre d'honneur autour de vous. Et c'est précieux quand on sait très bien la grâce dont on a bénéficié pour arriver à la guerre d'honneur. Pour rentrer dans le cœur de Jésus, il ne faut pas en priver ceux de vos deux. Toujours pareil. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas grave. Et parce qu'en somme, si vous êtes interpellé à donner par l'Esprit Saint intérieur de votre cœur, à donner le flyer à quelqu'un, c'est que il y a quand même une idée. Il a une idée derrière la tête, le bon Jésus. Tout est permis. Il conduit toute chose. Voilà, on s'arrête là, à moins qu'il y ait des questions. En tout cas, je vous souhaite une belle fête du Sacré-Cœur. Hein. Réparons en tout cas. On sera comblé si on s'oublie le jour de la fête du Sacré-Cœur. On sera comblé par justement cette démarche de réparation. Hein. Il nous comblera. C'est toujours dans ce sens. Hein. En s'oubliant, du coup, on y a moins de nous. Il nous comble. Hein. Alors que on aura fait une petite pratique, peut-être chez soi, parce qu'on ne pourra pas assister à la messe, de prier son amende honorable les bras en croix. Hein. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va prier un Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous. Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. Bienheureuse Marie de Jésus de Louis Martini, bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes, Sœur Marie du Sacré-Cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, une belle fin d'après-midi, et puis à très bientôt, en tout cas tous les jours dans le cœur de Jésus à la Sainte Messe. Vous savez, je continue toujours de vous plonger à chaque Eucharistie. Vous avez la grâce d'y assister tous les jours et je plonge. Voilà. En tout cas, bon retour et en grande union de prière. Hein. Plein d'espérance, hein.